Au détour d'une page d'un livre de Jean Giono intitulé « Les vraies richesses », on peut lire ces quelques lignes. La joie de Jésus peut être personnelle. Elle peut appartenir à un seul homme et il est sauvé. Il est en paix, il est en joie pour maintenant et pour toujours, mais seul. Cette solitude de joie ne l'inquiète pas. Au contraire, il est l'élu. Dans sa béatitude, il traverse les batailles une rose à la main. Quand la misère m'assiège, je ne peux pas m'apaiser sous des murmures de génie. Ma joie ne demeurera que si elle est la joie de tous. Je ne veux pas traverser les batailles une rose à la main. Fin de citation. La vision donnée par Giono du salut chrétien repose sans doute sur un malentendu ou une méconnaissance, mais pas sur la réalité. Quand on est chrétien, on n'est pas sauvé tout seul. Et appartenir au Christ ne signifie pas se désintéresser de la marche du monde dans l'attente d'un monde meilleur. La parole de Dieu entendue aujourd'hui nous le rappelle avec acuité. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. C'est une parole très forte qu'il nous faut graver sur la tablette de notre cœur. Saint Paul nous fait ainsi comprendre que l'amour d'autrui n'est pas secondaire pour un chrétien. C'est la loi même que Dieu donne pour lui être ajusté. Dans une société de plus en plus individualiste, où la perte du sens du collectif touche parfois même les baptisés, il importe de prendre à nouveau conscience que la dimension sociale du christianisme engage chacun de nous. Quand j'étais directeur de collège à Mamers, j'avais affiché au-dessus de mon bureau ce verset, bien visible pour que je le relise tous les jours et pour que mes visiteurs le remarquent. « Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Ainsi, je voulais non seulement avoir sans cesse le rappel que l'amour de Dieu et l'amour du frère sont indissociables, mais aussi faire comprendre que c'est au nom même de ma foi chrétienne que je me sentais responsable de ceux qui m'étaient confiés. Il faut donc entendre la parole du Seigneur adressée à Ézéchiel comme une parole qui nous est également adressée. « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » À la question posée par Caïn au début du livre de la Genèse, « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Nous avons à répondre « Oui ». Nous aurons à rendre des comptes sur la vie des autres. Et c'est alors que les choses se compliquent. Si ma responsabilité est engagée vis-à-vis d'autrui, comment faire quand celui-ci s'engage dans les impasses du mal, en particulier contre moi ? Saint Matthieu rassemble en un discours différentes paroles de Jésus sur la vie fraternelle. Jésus y insiste sur ce qu'Ignace de Loyola appellera plus tard la discreta caridad. Excusez mon mauvais accent, je ne parle pas l'espagnol. Et justement, cette charité discrète, voilà la traduction, est le meilleur moyen de concilier, à l'égard de celui qui agit mal envers moi, l'impératif de vérité, on ne peut pas laisser l'autre sombrer dans le péché, et l'impératif de l'amour. D'ailleurs, comme le note saint Augustin, on entre dans la vérité que par la charité. Les paroles de Jésus nous permettent d'éviter deux attitudes, celle du redresseur de tort et celle du fataliste. Le redresseur de tort veut faire le bonheur de l'autre malgré lui, quitte à user de la violence pour lui faire enfin embrasser des vues conformes à la vie communautaire. L'histoire nous offre malheureusement de nombreux exemples de régimes politiques où l'on va jusqu'à anéantir la personnalité d'un homme, pour son bien, évidemment. Jésus conseille de procéder par étapes, de laisser à l'autre toutes ses chances avant qu'il ne s'exclue de lui-même de la vie fraternelle. Rien par force, tout par amour, comme le disait saint François de Sales. Et lorsque le méchant, malgré les avertissements et les tentatives de réconciliation, se sera mis au banc de l'Église par son refus obstiné d'écouter, et simplement d'écouter, que restera-t-il entre lui et nous ? plus rien, comme le voudrait le fataliste? Tout aura-t-il été liquidé? Non. Il restera la dette de l'amour mutuel que rien ne peut effacer. Si nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à aimer, en revanche, nous, en Christ, nous avons à aimer tout homme pour qui Jésus est mort sur la croix. Cet amour gratuit, qui ne fait pas exception des personnes, s'étend jusqu'aux ennemis. Seuls, nous n'avons pas la force de porter un tel amour. Il nous faut bien la force du Christ qui a réconcilié le monde avec Dieu. Il nous faut sa grâce. Mais il nous faut aussi faire l'expérience concrète d'une possibilité d'accord avec autrui. C'est pourquoi Jésus évoque deux ou trois témoins, puis deux ou trois réunis en son nom, et plus largement l'assemblée de l'Église. Ce que Jésus avait donné comme pouvoir en propre à Pierre, lier et délier, c'est-à-dire interdire et permettre, il l'énonce comme étant un pouvoir de l'Église, son corps et son épouse. Par conséquent, l'Église a pour mission d'être un instrument de réconciliation, un instrument de la miséricorde du Père, un instrument de l'unité du genre humain. C'est une incroyable responsabilité qui exige de tous les baptisés, de nous tous, un effort de conversion personnelle. Certes, l'Église remplit cette mission quand il lui faut exercer la correction fraternelle, par exemple en annonçant l'Évangile dans une société qui ne veut guère en entendre parler dès lors que cet Évangile contredit la pensée commune et les mœurs du moment. Et cela pourrait nous conduire à désespérer quand nous voyons des personnes quitter l'Église, la plupart du temps parce qu'elles sont heurtées par la radicalité du message évangélique et n'en comprennent plus les enjeux. Nous n'avons pas de leçon à donner à qui que ce soit, parce que nous sommes pécheurs. Mais l'Église, qui compte en son sein ces mêmes pécheurs, n'est pas n'importe quelle assemblée. Jésus ressuscité est présent au milieu de ceux qui se rassemblent en son nom. Il est présent par son Esprit Saint. Et dans l'Eucharistie, il est même réellement présent. Et cette présence nous engage. Alors, quand nous désespérons de voir notre amour sans réponse et notre frère s'éloigner, ayons foi que notre prière de réconciliation adressée au Père en Église sera d'une façon ou d'une autre exaucée. Jonot disait « Ma joie ne demeurera que si elle est la joie de tous ». Eh bien, nous pouvons dire que cette joie est en Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen.